7h42, l'invité du 5-9 ce matin, c'est Yves Bertoncini pour parler bien sûr du Brexit. Le Royaume-Uni quitte l'Europe, nous venons de vivre une nuit historique. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors, un groupement d'études et de recherche pour une union plus étroite de l'Europe. Ce matin, on voit bien que ça va clairement pas dans le sens de cette union renforcée. Les Britanniques claquent la porte. C'est un coup de tonnerre pour l'Union européenne, Yves Bertoncini ?
Oui, bien sûr, c'est un coup de tonnerre. En même temps, l'union sans cesse plus étroite, ça n'a jamais été la tasse de thé des Britanniques. Ils avaient déjà un statut très particulier. Ils n'étaient pas dans l'euro, ils n'étaient pas dans Schengen. C'était un mariage d'intérêt pour eux. Ça n'a jamais été une histoire d'amour. Mais enfin, maintenant, c'est le divorce. Il va y avoir une procédure de divorce. Et donc, pour l'Europe, c'est un signal de désunion, de réversibilité même. On peut revenir en arrière, alors que jusqu'ici, il y avait plutôt l'impression que ça irait de l'avant parce que dans le monde, l'Union fait la force. Les Britanniques ont voté démocratiquement, ils vont sortir, c'était leur droit. Et je veux le souligner parce qu'en même temps, il faut rappeler que l'Union européenne n'est pas une prison des peuples, ce n'est pas l'Union soviétique. Donc voilà, on en prendra acte à Bruxelles et ailleurs.
Alors vous disiez, l'Union fait la force, justement, quelles vont être les conséquences de ce Brexit déjà à court terme? On voit que ce matin, les bourses s'affolent. Comment ça va se passer?
D'abord, il y a, à mon avis, des conséquences négatives pour le Royaume-Uni lui-même, parce que les bourses s'affolent et attaquent la livre. Alors en même temps, puisqu'il y a une grande interdépendance économique et financière entre le Royaume-Uni et le continent, et puis que c'est un grand pays inséré dans l'économie mondiale, bien sûr aussi des conséquences négatives, au moins à court terme, sur nos économies, y compris en France. Alors à moyen terme, tout dépendra en revanche du nouvel arrangement qui sera conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Au fond, on engage une procédure de divorce qui peut durer presque 2 ans, mais il va falloir conclure autre chose, une sorte de pacte entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et en fonction du terme, des contenus du pacte, de l'âpreté des négociations, peut-être qu'on aboutira à une situation un peu moins apocalyptique, mais en tout cas, à court terme, ça va être l'incertitude économique, financière, et j'ajoute politique, parce qu'il n'est quand même pas du tout certain que David Cameron puisse continuer à gouverner efficacement son pays.
Oui, effectivement, il est sur la sellette David Cameron. Il avait lui-même parlé, il n'a pas encore parlé ce matin, mais il avait parlé d'option d'autodestruction en parlant de ce Brexit. On en est là? C'est l'autodestruction du Royaume-Uni?
Du Royaume-Uni,
puis de l'Europe.
Davantage que de l'Union européenne, je dirais, parce qu'on le voit d'ailleurs dans les votes. L'Écosse a voté de manière massive pour rester, alors que l'Angleterre quitte. Le Royaume-Uni, globalement, donc, veut partir. L'Irlande du Nord voulait rester. Donc, il va y avoir, y compris, des conséquences internes. Et les Écossais vont demander à réorganiser un référendum d'indépendance parce que...
Oui, d'ailleurs, le Parti républicain irlandais a déjà appelé un référendum.
Absolument. Et donc, ce qui se passe, c'est que David Cameron va rester dans l'histoire, probablement, comme le Premier ministre qui a fait sortir son pays de l'Union européenne, et peut-être comme celui qui aura enclenché ou réenclenché, il faut être juste, parce que ça existait déjà, la dynamique indépendantiste écossaise. C'est un bilan assez peu flatteur pour lui, à mon avis, au sens de l'histoire longue. Mais il avait fait ce pari, ce coup de poker, qui à la fois est une consultation démocratique légitime, et en même temps qui était un outil de politique intérieure personnelle pour conforter son pouvoir. Il a perdu son pari.
Alors, est-ce qu'on peut craindre, justement, il a perdu son pari, mais est-ce qu'on peut craindre un effet boule de neige en Europe? On le voit, les eurosceptiques gagnent du terrain un peu partout. Ce matin, on voit que le Front National en France, que ce soit Florian Philippot ou Marine Le Pen, appelle désormais un référendum. C'est la même chose pour le député d'extrême droite néerlandais, Geert Wilders, qui réclame également un référendum dans son pays. Est-ce qu'on peut craindre une multiplication des référendums comme ça dans les pays de l'Union européenne?
Une multiplication des appels au référendum, on peut l'anticiper et on peut déjà la constater. Alors maintenant, est-ce que des autorités nationales comme celles qui étaient au pouvoir à Londres vont passer à l'acte, organiser un référendum d'appartenance? Et deuxièmement, est-ce qu'il pourrait être perdu? Sur le premier point, je crois que la prochaine étape, ce serait plutôt le Danemark. Parce qu'au Danemark, il y a des autorités nationales qui tiennent avec le soutien d'un parti d'extrême droite. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir en France, bien sûr.
C'est ce que j'allais vous dire, on est dans une année présidentielle l'an prochain, comment ça va se passer?
Mais elle le mettra au cœur de sa campagne, Geert Wilders, la même chose. Et donc aujourd'hui, je dirais à court terme, au-delà du Danemark, je ne vois pas très bien, je dis bien à court terme, comment de tels référendums d'appartenance pourraient être organisés. Alors ensuite, il y a le deuxième point quand même qui est le plus important, c'est est-ce qu'au fond, il y a aujourd'hui d'autres peuples qui sont dans la situation très particulière du Royaume-Uni? Le Royaume-Uni, ça fait depuis le début qu'ils ne sont pas convaincus. Déjà 2 ans après leur adhésion, ils avaient organisé un référendum d'appartenance en 75. C'était le signe d'un malaise. Le malaise, il existe ailleurs en Europe, mais je dirais qu'il ne faut pas confondre l'euroscepticisme, la critique de l'Europe qui s'est beaucoup répandue. L'image de l'Europe s'est dégradée, la confiance en l'Europe aussi. et l'europhobie. Parce que l'europhobie, c'est détester tellement l'Europe qu'on veut en sortir. Si on regarde l'Europe centrale, les pays comme la Pologne, la Hongrie, ils sont eurosceptiques, mais ils sont pas du tout europhobes. Donc s'il y avait des référendums d'appartenance qui portent vraiment sur les sujets européens, je suis quand même pas certain que, comme au Royaume-Uni, ils pourraient déboucher sur une sortie. Ceci dit, ce que le Royaume-Uni va nous rappeler, c'est que ce type de référendum ne porte pas que sur les enjeux européens, que ce sont des référendums aussi exutoires qui visent les élites nationales en place, les élites politiques, les élites financières. Et je dirais, dans le contexte actuel, comme l'Europe a une image très dégradée, on ne peut effectivement rien exclure de tels référendums d'appartenance. La seule chose qu'il faut ajouter, c'est que nul n'aurait le même effet que celui qui s'est passé au Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, c'était quand même un très gros morceau et c'est une amputation pour l'Union européenne.
Merci beaucoup Yves Bertoncini d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour réagir donc à ce référendum, ce Brexit du Royaume-Uni.